Voilà, c'est la première piste. Et puis, il y a une deuxième piste, c'est le temps qu'il faut avoir travaillé pour pouvoir toucher ces indemnisations. Aujourd'hui, elle est de 6 mois sur 2 ans. Peut-être qu'il va falloir travailler plus. Est-ce que c'est une bonne manière, Ségolène Royal, d'inciter les Français, les chômeurs, à aller retrouver du travail ?
Quel est le contexte ? Le contexte, c'était d'abord la réduction des déficits. Déficit de compte public, déficit de croissance, déficit du commerce extérieur. Donc personne ne peut croire que la réforme de l'assurance chômage va régler miraculeusement ces 3 déficits. Et d'ailleurs, Gabriel Attal a pris soin de replacer cette question de la réforme du chômage dans un ensemble de choses. C'est pas la réforme principale. Elle a été annoncée beaucoup avant sa prise de parole, mais finalement, ce qu'on observe dans sa prise de parole, c'est qu'elle a été assez prudente. Moi, ce que j'ai apprécié, je dirais ce que j'ai pas aimé, ce que j'ai apprécié, c'est que par rapport à tout le discours de crainte, d'affolement, de peur que l'on entendait, c'est vrai, on fait peur aux Français, on leur dit il y a des déficits, donc vous allez voir ce que vous allez voir, vous mettez à tour de vis avec cette expression-là.
Voilà, c'est pas rien de s'attaquer quand même à l'assurance chômage.
Oui, mais il a dit que c'est quand même les partenaires sociaux qui allaient décider. Donc, attends de voir ce que disent les partenaires sociaux. Et par ailleurs, il y a plusieurs éléments que les partenaires sociaux vont regarder, ils vont dire, mais attendez, c'est pas au moment où le chômage augmente qu'il faut réduire son indemnisation. Sinon, il va y avoir encore une réduction de la consommation, et la réduction de la consommation est un des éléments clés de la difficulté des entreprises et donc des déficits des comptes publics. Et donc, il faut faire très attention à cet équilibre-là. Mmh. Et deuxièmement, l'autre piste qu'a ouvert Gabriel Attal, en tout cas qu'il n'a pas refermée, c'est l'imposition des grandes fortunes, notamment des fortunes financières. Il n'est pas allé jusqu'à dire on va rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, mais pour terminer, je pense que
dogme sur les super profits,
pas de dogme sur les super profits,
et notamment sur les super profits des énergéticiens qui ont fait énormément
ça,
de bénéfices.
Parce qu'il y a des profiteurs de guerre en ce moment, et les Français le voient que d'un côté, il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent et qui gagnent beaucoup d'argent avec des effets d'aubaine, comme sur l'énergie, puisque c'est spéculatif, que le CAC 40 n'a jamais été aussi haut, que les dividendes n'ont jamais été aussi haut. Oui, mais ce qui est très important, c'est que les Français ne croient pas que c'est en réformant l'assurance chômage qu'on va régler les déficits. Même si on sait que les marchés financiers aiment bien quand on attaque la protection sociale, donc si c'est pour rassurer les marchés financiers, peut-être aussi qu'il faut repenser la question des agences de notation. Mais en tout cas, ce qu'on attend, c'est le déploiement d'un système juste dans la répartition
des efforts. Alors, il y a des études quand même qui montrent qu'en réduisant la durée d'indemnisation de 20%, cela permettrait d'économiser 3 milliards d'euros. Charles Consigny, est-ce que c'est une bonne façon d'inciter les gens, les chômeurs, à retourner au travail ? Est-ce que c'est une bonne idée ?
Je ne sais pas. Oui, moi, sur le plan politique, philosophique, intellectuel, je suis favorable à ce genre de mesures d'inspiration libérale, mais je le serais davantage si cela s'inscrivait dans une vraie politique globale allant dans ce sens-là. Je n'avais pas perçu, mais peut-être que je ne lis pas les bons journaux ni ne rencontre les bonnes personnes, je n'avais pas perçu qu'il y avait une telle urgence à réformer l'assurance chômage. C'est quelque chose qui est sorti du chapeau. Bon. Et donc, je me demande s'il n'y a pas là quand même...
Le chômage est à 7,4%, il voudrait le ramener à 5%. Est-ce que ça ne passe pas par là ?
Je ne sais pas. Honnêtement,
aider les entreprises à embaucher.
Je pense que... Il y a quelque chose à faire du côté des salaires quand même en France, et ça c'est bon, une espèce d'impensé politique. On ne sait pas trop comment on pourrait faire pour qu'ils augmentent.
Mais alors il en a parlé de la
désmicardisation. C'était un des points à la fin de l'interview.
On tambourine en disant désmicardisation.
L'allègement des cotisations pour
inciter davantage à augmenter les salariés. C'était un des points. Mais alors il a dit avoir confié une mission à 2 économistes. Donc si vous voulez, il n'est pas allé très loin sur ce terrain-là.
Dans le même temps. Dans le même temps, on a le collègue de Gabriel Attal, Monsieur Guérini, qui nous annonce sur Twitter la création de l'agence de conseil interne de l'État. C'est une nouvelle agence. Donc, ils ont découpé un ruban bleu, blanc, rouge. Ils sont très nombreux sur la photo. Donc, ils vont être nombreux, j'imagine, dans cette agence. Et donc, c'est des... comme l'a assez justement tweeté, ça ne vaut pas soutien politique ce que je vais dire, mais j'ai trouvé le tweet bien fait de Bruno Retailleau. Il dit « De nouveaux fonctionnaires pour conseiller des fonctionnaires, une nouvelle agence de l'État pour accompagner les agences de l'État, et ce, en plein dérapage budgétaire, alors qu'on nous promet la main sur le cœur des économies. » Donc ça m'intéresse, effectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois nous dire... Il y a des déficits, il y a du chômage, il faut qu'on prenne des mesures, en gros des mesures libérales de réduction des dépenses, parce qu'en fait, ça, c'est, on réduit nos dépenses sociales pour réduire d'autant les charges, j'imagine. À mon avis, on ne réduira pas les charges et on réduira simplement les dépenses. Mais bon, et en même temps, créer des nouvelles agences avec des centaines de fonctionnaires à l'intérieur, ce n'est pas possible. C'est ce même gouvernement qui a recruté au sein de l'administration 60 000 fonctionnaires.
Mais Charles, sur, précisément, donc, ça, on va reparler, donc, mais non, sur la réduction de la durée.
Oui, mais la réduction, pourquoi pas après,
mais ça dépend
moi,
pour qui.
Moi, je suis quand même gêné, que... je finirai juste en un mot. Je suis quand même, même si je pense encore une fois que ça va dans le bon sens, que je suis pour mettre les gens au boulot, je suis gêné que jamais on ne donne l'exemple en haut. C'est-à-dire que c'est des gens qui, en général, ont la sécurité de l'emploi par les grandes écoles, la haute fonction publique, etc., qui viennent expliquer à des chômeurs en fin de droit que la fin de droit va arriver plus vite. Et j'aimerais bien, moi, qu'on fasse le même genre de mesures un peu rudes pour ceux qui coûtent cher en haut. Je pense que ça permettrait de faire une ambiance plus juste dans ce pays. Et
vous ne trouvez pas que la France protège trop?
Je pense que on a tendance à se laisser couler dans ce modèle-là, et je pense que ce modèle nous coule collectivement, mais je suis pour une vraie révolution.
Mais la révolution, en fait, moi, ce qui me gêne dans la réduction de la durée d'indemnisation, c'est que ça n'a, quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, qui a 45 ans, perd son emploi. Ce n'est pas du tout la même personne que quelqu'un qui joue beaucoup, notamment avec des ruptures conventionnelles, qui va travailler 6 mois, vous l'avez bien expliqué, sur les 24 mois, etc., pour bénéficier de l'assurance chômage, et qui va être au chômage pendant quelques mois, et qui après va revenir travailler, etc. On sait très bien, notamment,
oui, mais
chez,
normalement,
sur, attends, je termine, notamment chez les jeunes, ça existe beaucoup. Et tu peux même mettre sur le même plan ces personnes qui profitent un petit peu du système, parce qu'il y a des trous dans la raquette, et quelqu'un qui a 45 ans, qui n'a jamais eu perdu de chômage.
Ah oui, mais alors comment on fait? On fait du cas par cas?
Oui, mais ben, oui, moi, mais je suis pour le cas par cas. Le cas par cas, il se fait
au stade du licenciement. La personne qui a 45 ans d'ancienneté, le code du travail lui prévoit des indemnités plus importantes calculées sur la base de son ancienneté.
Mais l'indemnité chômage, si elle est réduite, elle sera réduite pour tout le monde. Et c'est beaucoup plus difficile de retrouver un travail quand t'as 45 ans que quand t'en as 25.
Mais une personne qui est licenciée ou qui part selon une rupture conventionnelle, mais j'ai vu que le gouvernement voulait supprimer la rupture conventionnelle.
Parce qu'il y a beaucoup d'abus.
Non mais d'accord, mais c'est quelqu'un qui part avec des indemnités versés par l'entreprise, qui sont quand même fonction de son ancienneté dans l'entreprise, heureusement.
Mais ça dépend aussi du salaire. Hein.
Il faut du cas par cas, Ségolène Royal ?
Il faut du cas par cas en fonction de la nature du chômage. Quels sont les deux principaux domaines de chômage ? C'est les seniors. Donc là, quand il y a eu le recul de l'âge de la retraite avant de lutter contre le chômage des seniors, ça a été une grave erreur. Parce que les salariés se sont sentis déstabilisés, les entreprises aussi. C'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont arrêté les recrutements de jeunes parce qu'elles ont été obligées de garder les seniors et sans en recruter de nouveaux, c'est-à-dire les seniors au chômage. Donc là, il y a un vrai travail à faire sur la mobilisation des entreprises et sur l'accompagnement de la formation professionnelle des seniors. Deuxièmement, le chômage des femmes et notamment le temps partiel contraint. Il y a beaucoup de femmes qui veulent augmenter le temps de travail à qui on ne donne pas cette capacité, cette possibilité-là, notamment dans tout le secteur de la grande distribution. Donc là, peut-être un peu de contrainte sur les employeurs aussi pour allonger la durée de travail des femmes. Et puis enfin, les jeunes. Donc il y a aussi beaucoup de chômage chez les jeunes. Et donc là aussi, c'est sans doute par région aussi qu'il faut travailler, par territoire, et faire du sur-mesure.
Donc plus de sur-mesure.
Mais n'oublions pas aussi que, juste un mot, c'est que l'indemnisation du chômage, c'est aussi une aide indirecte aux entreprises. Parce que s'il n'y avait pas cette indemnisation du chômage, les entreprises seraient beaucoup moins flexibles par rapport aux difficultés économiques. Et souvent, ça leur permet quand même de se débarrasser des salariés, entre guillemets, parce qu'elles savent qu'il y a un filet de sécurité. Donc il faut faire attention avant de toucher à des acquis sociaux, de bien mesurer les conséquences et les déstabilisations que ça provoque.
Et une remarque sur la communication.
Vous avez quelques secondes.
Oui, mais la communication politique. Gabriel Attal, il n'est pas venu sur TF1 avec les mêmes mots que devant l'Assemblée nationale en disant la rigueur, serrer la vis, etc. Il est venu, au fond, en essayant, alors c'est de la communication politique, mais d'être dans une prudence, de dire qu'il n'avait pas de dogme, de dire que tout était sur la table, qu'il présentait des pistes, qu'il était dans la pédagogie, qu'il y avait des paramètres. C'est intéressant. Voilà, il y avait une posture très différente de la posture ordinaire de Gabriel Attal en termes de communication.
Rebonsoir, on reste ensemble et en direct jusqu'à minuit. Toute la bande est avec autour de moi pour m'accompagner. Et notre invité à 22h15, c'est Philippe Poutou, porte-parole du NPA, du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir Philippe Poutou. On voulait évidemment vous faire réagir aux annonces de Gabriel Attal. Ce soir, qu'il le dit, je le répète, il y aura une réforme de l'assurance chômage. Cette année, mon objectif n'est pas de m'en prendre aux chômeurs, mais de mettre en place plus d'incitations à la reprise d'emploi. Pour ça, il y a deux pistes qui sont explorées. La réduction de la durée d'indemnisation et le temps qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier de l'assurance chômage. J'imagine, mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ces annonces, Philippe Poutou.
Je crois que vous imaginez bien. Donc oui, vous avez résumé un peu les interventions ou l'intervention de Attal de ce soir. Pas de surprise puisque c'était quand même bien annoncé ces derniers jours. Et puis on avait eu droit aussi au discours de Bruno Le Maire qui disait à peu près la même chose. Et on sentait bien que leur cible, encore une fois, c'était les plus précaires, les plus pauvres et notamment les chômeurs et les chômeuses. Voilà, le discours, pas surprenant d'un gouvernement de riches, de millionnaires, évidemment, des millionnaires. Et ça s'intéresse plutôt à défendre les intérêts des millionnaires. Et puis ça attaque dans la poche des plus pauvres. Voilà, c'est ce qui est en train de se passer. Mais ce qui est très inquiétant, c'est qu'on a, en fait, on a un gouvernement de plus en plus en roue libre, en fait, qui dit n'importe quoi, sans argument, qui reprend des vieilles idées de la droite, des idées presque depuis toujours.
Philippe Poutou, est-ce que c'est pas louable quand même de vouloir rendre le travail plus incitatif ? Il y a 300 à 400 000 postes qui sont non pourvus en France à l'heure où on parle. Il y a encore 7,4% de chômage. Qu'est-ce qu'on fait alors pour rendre le travail plus incitatif ?
Non, là, par contre, c'est une blague, ce que vous dites. Je sais pas si vous croyez à ce que dit Attal, si vous croyez à leurs préoccupations. Mais franchement, c'est les mêmes discours, les vieux discours. S'en prendre aux chômeurs comme c'est fait là, évidemment que ça répondra en rien à la situation. On sait très bien qu'aujourd'hui, s'il y a du chômage, s'il y a de la précarité, c'est parce que les entreprises licencient, c'est parce qu'il y a une course au profit, à la rentabilité qui fait qu'aujourd'hui, on diminue les effectifs partout, y compris dans les services publics. Donc, la réponse aujourd'hui, ça serait même une politique inverse à celle qui se fait. Ça sert à rien de reprendre les mêmes vieilles idées à la con, dont on sait très bien que ça va contribuer à appauvrir toujours les mêmes et enrichir toujours les mêmes. Donc en fait, il faudrait discuter d'une politique inverse, parce que là, on a l'impression qu'ils manquent d'imagination et qu'ils ne savent pas où ils pourraient prendre de l'argent. Et ils font comme si ils cherchaient, comme si, là, peut-être qu'on a une idée. Alors qu'en fait, c'est flagrant pour tout le monde en réalité. C'est que l'argent, il est dans la poche des millionnaires, dans la poche des milliardaires, dans la poche des entreprises du CAC 40, dans les dividendes des actionnaires.
Alors, vous avez vu d'ailleurs,
c'est là qu'il faudrait redistribuer.
Donc vous dites, comme d'autres à gauche, mais pas seulement d'ailleurs, dans la majorité aussi, et visiblement au sein du gouvernement, on n'est pas complètement fermé à l'idée non plus, vous dites qu'il faut taxer les super-profits. Vous avez vu que Gabriel Attal a dit il n'y a pas de dogme à ce sujet. Et il parle d'ailleurs de taxer les super-profits des énergéticiens. Là-dessus, le gouvernement serait plutôt pour.
Ouais, mais même ça, on n'y croit pas. S'ils le font, ils le feront de toute façon de manière trop légère. Et puis s'ils le font, ils feront des cadeaux par ailleurs. Parce qu'en fait, la spécialité de ce gouvernement-là, mais comme de tous les gouvernements qui ont précédé, c'est de faire des cadeaux, des milliards de cadeaux aux plus riches. Et quand ils font semblant de prendre un petit peu aux riches, ils leur redonnent de toute façon beaucoup plus par un autre biais. Et on le voit avec les cadeaux qui sont faits aux entreprises à longueur d'année, où c'est plus de 100 milliards, c'est quasiment 200 milliards même. Donc en fait, tout ça, c'est vraiment de la blague. En fait, c'est des postures, ils essaient de... Et en réalité, en fait, leur politique, et c'est là où il faut faire le lien avec tout le reste, parce que ce qu'il fait aujourd'hui, ça correspond bien aux attaques comme on a eu l'année dernière contre les retraites, c'est toujours la même chose, c'est prendre toujours plus d'argent du côté de la population, du côté des plus pauvres, et comme ils voient que finalement, ça résiste pas trop, ça lutte pas trop, même si l'année dernière, encore une fois, on a eu un fort mouvement qui aurait peut-être pu faire pencher la balance dans l'autre sens, on n'a pas réussi malheureusement, je parle de la bataille des retraites, alors aujourd'hui, le gouvernement, comme un revanchard, en fait, il va nous faire payer la peur qu'il a eue à un moment donné et il va continuer sa politique et il va prendre tout ce qu'il peut nous prendre sur le dos. Donc en fait, le problème qui nous est posé aujourd'hui, c'est pas de croire ou de penser même un petit peu que le gouvernement cherche des solutions à la crise de la société. C'est comment nous, on peut imposer au gouvernement et imposer aux plus riches un changement profond de la société.
Et
ça veut dire qu'il faut tout revoir. Et c'est vrai que c'est...
Je rappelle, on a un sondage, là, pour BFM TV qui est sorti aujourd'hui. Il y a un tiers des Français qui sont pour serrer la vis concernant les allocations chômage. C'est finalement un tiers des Français qui sont plutôt pour l'idée de Gabriel Attal. Frédéric Hermès, sur le plateau, vous voulez vous poser une question?
Mais bonsoir, M. Poutou. J'ai l'impression que vous confondez souvent les entreprises.
Bonsoir.
Parce que Vous parlez tout le temps des milliardaires du CAC 40. Enfin, le premier employeur de France, ce sont les TPME, les PME. Voilà, ce sont beaucoup d'entreprises où parfois les patrons ne se rémunèrent pas ou se rémunèrent très peu, qui sont parfois obligés de licencier des employés la mort dans l'âme. Donc, franchement, vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être trouver des solutions avant de toujours les confondre avec les grands patrons du CAC 40, trouver des solutions, et quelles sont les solutions qu'au NPA vous apportez pour que les petites et moyennes entreprises, celles qui, j'insiste, emploient les Français dans leur majorité, puissent conserver leurs employés.
Une réponse courte, s'il vous plaît, Philippe Poutou.
Course, c'est difficile, mais franchement, vous croyez pas qu'au contraire, il faudrait prendre dans la poche des milliardaires, qu'il faudrait prendre dans la poche des profits du CAC 40? Parce que c'est ça qu'on fait jamais. Il faudrait tenter, puis on verrait ce qui se passe. Là, je discute pas des petites entreprises ou des très petites entreprises. Là, on discute de ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des fortunes indécentes, incroyables, des records battus par des milliardaires, par des grosses sociétés, et à côté de ça, une société qui s'appauvrit. Donc, il y a un problème. Donc oui, il faut discuter de la répartition des richesses, il faut discuter de reprendre l'argent qui a été volé par les plus riches, parce que c'est de l'argent volé, parce que le système permet de voler légalement. Cet argent-là, il faut le reprendre. Et si on ne peut pas le reprendre par des lois, évidemment, ça ne sera pas un gouvernement, encore une fois, de riches qui va s'en prendre aux riches. Donc, en fait, c'est comment la population, elle trouve la force, elle retrouve la force, elle retrouve le chemin des luttes qui permet justement d'imposer à cette société-là une réorganisation. Et là, ce n'est même pas juste taxer les surprofits. Ce serait aussi de voir comment on peut se réapproprier une partie de l'économie, comment on pourrait socialiser la santé, socialiser des secteurs fondamentaux qui permettraient justement d'arrêter le parasitisme des plus riches et de faire en sorte qu'on retrouve une société avec des services publics qui fonctionnent, une éducation nationale qui fonctionne, des hôpitaux qui fonctionnent, et ça passe par des recrutements massifs. Et là, on verrait certainement que ça irait beaucoup mieux pour l'ensemble de la population, un peu moins bien pour les plus riches, mais ceci dit, ils ont quand même une grande marge de manœuvre. Et voilà. Et la réponse était longue.
Merci, Philippe. Aussi.